Nous commencerons par la lecture d'un passage de l'Écriture sainte et je vous propose la seconde partie du cinquième chapitre de l'Épître aux Romains. Épître aux Romains, chapitre 5, à partir du verset 12. Voilà pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes, du fait que tous ont péché, car jusqu'à la loi, il y avait du péché dans le monde, mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné d'Adam à Moïse, même sur ceux qui n'avaient point péché d'une transgression semblable à celle d'Adam, figure de celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don comme de la faute. Si par la faute d'un seul, la multitude est morte, combien plus la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude. Et il n'en va pas du don comme des conséquences du péché d'un seul. Le jugement venant après un seul péché aboutit à une condamnation. L'œuvre de grâce, à la suite d'un grand nombre de fautes, aboutit à une justification. Si en effet par la faute d'un seul, la mort a régné du fait de ce seul homme, combien plus ceux qui reçoivent avec profusion la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ ? Ainsi donc, comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie. Comme en effet, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste. La loi, elle, est intervenue pour que se multipliât la faute, mais où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné dans la mort, de même la grâce régnerait par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Le troisième des sept articles, l'ancienne version de la confession de foi de Jésus, est devenue le quatrième dans les 10, la version actuellement en vigueur. En effet, un article sur la souveraineté de Dieu a été ajouté dans la rédaction la plus récente. Et j'avoue que je l'aurais peut-être commenté, cet article sur la souveraineté de Dieu, si j'avais eu en main la dite version révisée lorsque je me suis préparé. En effet, j'aurais eu plaisir à parler de la souveraineté de Dieu. Mais je pense que Dieu a conduit en cette affaire aussi, même dans les détails de cette affaire. Et je vais essayer de vous présenter la question qu'on abordait autrefois en troisième position, immédiatement après celle de la Bible et celle de la triunité divine. Et le premier fait qui frappe à son propos, c'est que d'une version de la confession de foi à l'autre, des 7 aux 10, on ne constate pas seulement le décalage du troisième au quatrième rang, mais aussi une modification du texte. Le quatrième article des 10, actuellement en vigueur, s'énonce comme suit. Depuis la chute, tous les hommes sont pécheurs et coupables devant Dieu. Par conséquent, ils tombent sous le coup de sa colère et de sa condamnation. Je répète, depuis la chute, tous les hommes sont pécheurs et coupables devant Dieu, par conséquent, ils tombent sous le coup de sa colère et de sa condamnation. Le troisième article des sept, l'ancienne version, s'énonçait d'une autre façon. Nous croyons que la nature humaine est tout entière plongée dans le mal depuis la désobéissance du premier homme et qu'elle est ainsi sous le coup de la condamnation de Dieu. Je relis donc ce troisième article des sept. Nous croyons que la nature humaine est tout entière plongée dans le mal depuis la désobéissance du premier homme et qu'elle est ainsi sous le coup de la condamnation de Dieu. Il n'est pas douteux que la rédaction récente atténue quelque peu la force des expressions choisies autrefois. J'avais été surpris, je l'avoue, par la vigueur de ces dernières. Et je me préparais à demander si les responsables se rendaient bien compte de la portée de ce qu'ils signaient. J'avais été heureusement surpris d'ailleurs, parce que je crois que cette rédaction ancienne, avec sa vigueur, est très biblique. Mais tous ne sont pas absolument d'accord, même parmi les chrétiens évangéliques. En gros, on peut dire qu'il y a un courant pélagien et arminien qui préfère une formulation plus relâchée, plus laxiste. Dans cette tradition, pour ceux qui ne connaissent pas ces termes un peu techniques, l'histoire de la doctrine, dans cette tradition, vous trouveriez l'évangéliste Charles Finet, par exemple, au XIXe siècle. C'est un représentant très marqué de ce courant. Alors que la rédaction plus forte correspond à la tradition de saint Augustin et de la Réforme, en particulier calviniste, et qu'on pourrait citer plus près de nous un prédicateur de réveil et d'évangélisation comme Spurgeon, comme représentant parfaitement strict, parfaitement net, de cette deuxième ligne. La différence des rédactions d'une confession à l'autre évoque ainsi tout naturellement un nouveau type de controverse. Je vous rappelle que nous étudions ensemble les points controversés. Controverse non plus avec ceux du dehors, mais à l'intérieur même de ce qu'on appelle les milieux évangéliques. Controverse entre différents courants qui ont, je crois, en effet, le droit de citer les uns et les autres dans un mouvement comme le GBU, ce qui fait que la rédaction un peu plus vague des 10 articles est légitime. Je vais cependant commenter à la fois les deux formulations. Je vais essayer de montrer que l'ancienne, non moins que la nouvelle, est conforme à l'Écriture, donc dans sa vigueur, et même, j'essaierai de dire, malgré l'avis des frères arminiens, que cette ancienne rédaction me semble exprimer ce qui est nécessaire à la pleine validité de la nouvelle. Si on donne au terme de la nouvelle toute leur force, eh bien finalement, on revient pratiquement à l'ancienne. En même temps, j'essaierai de souligner l'importance actuelle de la doctrine en cause. Je crois que nous ne saisissons pas toujours quelles conséquences devrait avoir pour nous l'adhésion à la doctrine du mal. On pourrait intituler l'étude de ce matin « Du mal de nature ». Nous ne nous rendons pas toujours compte, je crois, de son importance dans des secteurs que nous dissocions trop facilement de notre confession de foi. Je pense au rousseauisme ambiant. Nous y baignons vraiment. Toutes les conceptions de pédagogie ou de criminologie aujourd'hui sont déterminées par une conception de l'homme et du mal en antithèse directe de la position énoncée par la confession de foi du GBU, la nouvelle comme l'ancienne. Et je pense qu'il est utile pour nous de vraiment prendre conscience de ce que nous sommes conduits à confesser par la parole de Dieu. J'aurai 3 points. Ce n'est pas une manie chez moi d'en avoir 3. Hein. Mais voilà, ça se trouve comme ça. J'applique les règles de l'homilétique même sans vouloir. Premier point, le mal infecte toute l'humanité. Deuxième point, le mal, ce mal, est culpabilité personnelle, culpabilité condamnable. Et troisième point, ce mal a commencé dans l'histoire. La confession de foi actuelle souligne « tous les hommes sont pécheurs ». Elle affirme l'universalité du péché dans l'humanité au sens de la collectivité de tous les humains. Cette universalité s'observe si aisément qu'il est à peine besoin d'amener des preuves bibliques pour ce premier point. Cependant, je rappelle que notre foi ne se fonde pas sur notre expérience, si éloquente soit-elle. Ce n'est pas parce que nous constatons qu'en effet, tous ceux que nous rencontrons sont pécheurs, et que nous en sommes nous-mêmes, que nous avons alors à poser l'article de foi que tous les hommes sont pécheurs. Notre foi est toujours réponse à la parole de Dieu. Et si nous confessons tous les hommes sont pécheurs, c'est parce que Dieu nous le dit d'une manière claire, sans ambiguïté, dans l'Écriture sainte. Alors, il y a beaucoup de textes qu'on pourrait invoquer, mais je vous en signale un dans l'Ancien Testament, qui dit « Il n'y a aucun homme qui ne pêche ». Premier livre des Rois, chapitre 8, verset 46. Ce n'est pas le seul, je vous donne celui-là pour l'Ancien Testament. Et puis tout le chapitre 3 de l'Épître aux Romains pour le Nouveau Testament, qui est un chapitre très éloquent, qui développe ce thème. Il ne développe pas d'ailleurs seulement le thème de l'universalité du péché dans l'humanité au sens de genre humain, mais il développe en même temps, ce chapitre 3 aux Romains, le thème de l'universalité du péché dans la constitution de l'homme, dans l'ensemble de ce qui le fait homme. Paul, au chapitre 3, montre que le mal infecte tous les départements de la personnalité. Il le dit de façon relativement imagée, et en citant d'ailleurs des textes de l'Ancien Testament, versets 10 et suivants, nous avons établi que juifs et grecs, les païens, tous sont soumis au péché, comme il est écrit, il n'est pas de juste, pas un seul, il n'en est pas de sensé, pas un qui recherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Il n'en est pas qui fasse le bien, non, pas un seul. Et alors, vous avez ensuite l'universalité interne, pourrait-on dire. Leur gosier est un sépulcre béant, leur langue trame la ruse, un venin d'aspic est sous leurs lèvres, la malédiction et l'aigreur remplissent leur bouche. Agiles sont leurs pieds à verser le sang, ruine et misère sur leur chemin, nulle crainte de Dieu devant leurs yeux, etc. Dans la confession de foi, je pense qu'on pourrait rattacher ce deuxième aspect d'universalité à l'expression « tous sont pécheurs ». Elle signifie davantage que tous commettent des péchés. La nuance est d'importance. Elle souligne que le péché ne doit pas être conçu simplement comme un acte particulier et extérieur, mais que déjà le terme s'applique à l'état duquel procèdent tous ces actes particuliers, qui sont dénoncés bien sûr aussi comme des péchés. Le péché avant les péchés. L'arbre avant ses fruits. Vous savez que Jésus a fortement souligné la priorité de l'état de l'arbre sur la mauvaise qualité des fruits. Il ne s'agit pas seulement d'une mauvaise année, d'une mauvaise venue des prunes ou des poires de cette saison-là. Il s'agit de l'arbre, de ce qu'est cet arbre. Dans un langage un peu plus théologique, on pourrait aussi signaler deux ou trois thèmes bibliques importants. Jésus a relevé que le péché procède du cœur. Matthieu 15. Jésus a souligné que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, les nourritures diverses, ce qui souille l'homme, mais ce qui procède de son cœur. Or, le cœur, c'est l'homme lui-même, c'est l'homme intérieur, tout entier en sa centration. Et c'est du cœur que découlent toutes les sources de la vie, dit le livre des Proverbes au chapitre 4. Or, le péché procède du cœur. C'est dire que vraiment, c'est l'homme tout entier, pas un secteur seulement. On pourrait souligner aussi que ce qui est impliqué par le mot cœur dans l'Ancien Testament, qui a un vocabulaire plus limité, nous est comme détaillé dans le Nouveau Testament. La volonté de l'homme est serve, a servi au péché, comme le Nouveau Testament le souligne souvent, vous le savez, et son esprit, son intelligence sont obscurcis. Les deux grands aspects du cœur au sens biblique. Nous avons lu ce matin, au chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, des paroles très fortes de Paul sur l'enténèbrement de l'esprit de l'homme naturel. La faculté même de penser et ainsi de diriger ses voies est pervertie, renversée dans l'homme tel qu'il est avant l'intervention de la grâce de Jésus-Christ. Et à partir de ce centre, alors tout le reste est contaminé. Le corps lui-même, qui n'a rien de mauvais en lui-même, le corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Le corps lui-même devient corps de péché, selon l'expression très forte de l'Épître aux Romains, chapitre 6. Corps de péché parce qu'il est l'organe du péché. Parce qu'il est maintenant l'outil et il doit être détruit en tant que tel. Ainsi, c'est vraiment l'universalité interne de la personne humaine. L'ancienne rédaction, cet article, exprimait cette vérité en disant « La nature humaine est tout entière plongée dans le mal. » Vous voyez, je tiens ma promesse, je vous ai dit que je parlerai de la nouvelle rédaction, mais que je montrerai qu'en fait, quand on la prend dans sa rigueur, finalement on retombe sur ce que l'ancienne rédaction nous disait. Tous sont pécheurs, et ça veut dire finalement, toute la nature humaine tout entière, est plongée dans le mal. Alors je sais que certains auteurs, et c'est peut-être la raison pour laquelle le mot a été éliminé, objectent à l'usage de la notion de nature. Il nous dit c'est une notion grecque et elle n'est pas biblique. Il faut reconnaître que la notion de nature n'est pas utilisée très fréquemment dans la Bible, mais elle l'est. Elle l'est quelquefois, et cela suffit, je crois, à nous donner le droit de l'employer dans une confession de foi. Nous l'avons dans un texte que vous avez aussi étudié, avant que j'arrive, au chapitre 2 des Éphésiens. Un texte qui me paraît tout à fait fondamental pour notre sujet de ce matin. Éphésiens 2, 3, nous étions tous, par nature, des enfants de colère. Nous reviendrons sur cette expression enfant de colère, mais elle implique le péché. Et nous avons, par nature, la notion de nature est ici utilisée par l'apôtre lui-même. Et on trouve ailleurs des notions qui, je crois, sont pratiquement équivalentes. Ce n'est pas le mot nature qui est employé, mais la notion est là, au fond. Qu'évoquons-nous lorsque nous parlons de nature? Il me semble que nous pouvons résumer en disant nous évoquons un ensemble de caractères et de dispositions avec lesquels nous naissons. Le mot nature vient de la même racine que naître, avec lesquels nous naissons, ne concerne pas simplement les habitudes acquises, et qui sont communes à tous les hommes. Ça va ensemble d'ailleurs, naissons avec elles, parce que nous procédons d'humains, il s'agit de caractéristiques du genre humain, dans sa solidarité et communauté. Que nous naissions pécheurs est fortement confessé par un texte de l'Ancien Testament, un texte qui mérite que nous nous arrêtions un moment sur lui. Le psaume de confession qui célèbre, qui a le numéro 51 dans notre psautier, dit au verset 7, voici, dans l'iniquité je suis né, où j'ai été enfanté, dans le péché j'ai été, où ma mère m'a conçu, littéralement. Alors ce verset est généralement bien compris, heureusement, mais il y a cependant des gens qui ne comprennent pas tout à fait droit, et j'ai eu, parce que j'ai eu une petite controverse avec quelqu'un qui, je pense, ne ne le saisit pas dans son véritable sens. J'ai été amené à le travailler un petit peu ces derniers temps, à consulter des commentaires, alors je peux vous en parler. Le premier problème concerne l'attribution du péché ici. Et un deuxième problème concerne le sens de cette parole de l'auteur du psaume dans son contexte. L'attribution du péché. Est-ce que le psalmiste, ici, est en train d'attribuer le péché à sa mère ou est-il en train de confesser son propre péché dans ce verset ? J'ai vu soutenu, personne avec qui j'avais discuté, soutenait ce point de vue, j'ai vu soutenu que c'est sa mère, en quelque sorte, que le psalmiste accuse dans ce passage. Évidemment, en première lecture, on pourrait comprendre ainsi. Mais il me semble qu'il y a des objections quand même très sérieuses contre ce point de vue. D'abord, il y a deux façons de comprendre si on accuse la mère, disons. La façon sans doute la plus répandue parmi ceux qui suivent cette piste, que je crois une fausse piste, c'est de dire que c'est la conception, l'acte sexuel qui donne l'être à l'enfant, qui serait marqué par le péché à tel point que finalement il y aurait toujours péché à l'origine de la vie humaine. Cette façon de comprendre les choses a été commune, indépendamment de ce verset, dans toute la tradition occidentale, liée à l'ascétisme, à l'exaltation du célibat, par opposition à l'état matrimonial, etc. Je crois que, à l'égard de cette première version, il y a deux objections tout à fait décisives. En premier lieu, il y a la présentation que nous fait la Bible dans son entier de l'union charnelle au sein du mariage. Depuis Genèse 2, en passant par Cantique des Cantiques, etc., la Bible répudie, je dirais de façon très nette, cette conception ascétique qui a plus d'affinité avec le manichéisme qu'avec la vision biblique du Dieu créateur et de la distinction des sexes. Je crois que la Bible, dans son ensemble, ne fait jamais de l'union sexuelle à l'intérieur du mariage quelque chose qui aurait une affinité particulière avec le mal ou le péché. Au contraire. Et il est frappant que dans le milieu biblique, que dans l'Ancien Testament, la pratique ascétique de renoncement au mariage, qui est répandue, mais pratiquement universellement dans le monde, ait été ignorée. Le Nazaréen, celui qui faisait vœu de Naziréa, et si vous voulez, l'ascète de l'Ancien Testament. Il s'abstient de vin, etc. Et il se laisse couper s'il se laisse pousser les cheveux, c'est de l'ascétisme, ça. Et dans les autres pays, les gens, si vous voulez, qui correspondent dans les religions ambiantes, renoncent au mariage aussi. Pas le naziréen dans l'Ancien Testament. Les Esséniens, peut-être, mais il y a eu des influences étrangères qui ont joué sur eux. Et bien après, donc l'Ancien Testament lui-même, dans la période entre les Testaments, les Esséniens, peut-être, ont certains pratiqué le célibat, mais non pas tous même, car dans les cimetières de Qumran, on a découvert des squelettes de femmes. Donc, je crois qu'on peut dire de façon générale que la Bible ne considère pas du tout l'union charnelle de la manière qui serait supposée si c'était ça la pensée dans 51.7. La deuxième objection, c'est le parallélisme poétique de ce verset. Ma mère m'a conçu. Ça pourrait donc s'expliquer par cette conception ascétique, mais j'ai été enfanté dans l'iniquité. Là, on ne pourrait plus comprendre à ce moment-là, parce que l'enfantement lui-même, même dans ses théories ascétiques, n'est pas considéré comme péché, comme iniquité. Or, ici, nous avons un parallélisme manifeste. Je trouve que ces deux objections nous obligent à écarter cette première façon de comprendre. Deuxième façon de comprendre, proche, que j'ai trouvé dans un commentaire qui est le dernier commentaire paru en français sur les psaumes, et par conséquent, la conception risque de se répandre. Deuxième façon de comprendre, attribuant le péché à la mère, le psalmiste serait en train de s'avouer un enfant adultérin ici. Là, évidemment, un adultère est un péché, alors le psalmiste serait en train de dire « Je suis un enfant illégitime ». Ça tient un peu mieux, surtout que là, on peut dire à la rigueur qu'une naissance dans un tel état est une naissance dans l'iniquité. Mais, en dehors du lien au contexte, je crois qu'il y a une objection très forte contre cette conception. La tradition hébraïque, qui a mis des titres aux psaumes, ces titres n'étaient sans doute pas avec la première version de ces psaumes. L'original, en quelque sorte, ne comportait pas ces titres parce que des versions anciennes ne les ont pas, ou ne les ont pas de la même manière que nous. Enfin, c'est une tradition hébraïque quand même ancienne et respectable, hein, digne d'intérêt et d'attention. La tradition hébraïque a attribué ce psaume à David. David, après qu'il fut allé vers Bathsheba. C'est David qui prie. En tout cas, les anciens qui étaient plus proches de la situation que nous, et auxquels je crois qu'il est sage de faire un crédit, n'ont pas du tout compris qu'il s'agisse d'un psalmiste particulier dont la mère aurait été adultère. Personne n'a jamais imaginé que la mère de David ait commis cette faute. David n'est nulle part considéré comme un enfant adultère. Pas question d'imaginer ça. Donc, en tout cas, cette tradition ancienne a attribué à David, qui n'était pas dans cette situation, le psaume. Et n'a pas pu comprendre le verset 7 dans le sens que voudraient messieurs Maillot et Lelièvre, pour ne pas les nommer, qui sont les auteurs de ce commentaire auquel je fais allusion. Et, deuxième objection, même si ce n'était pas David qui avait écrit ce psaume, ce n'est pas une prière d'un individu isolé. Elle est reprise dans le psautier. Elle est là, dans le texte, pour être dite par tous les croyants. C'est une prière qui est à la première personne, mais pour être appropriée par tous les croyants de la communauté d'Israël, dans la confession de leurs péchés. Alors s'il s'agissait d'une situation aussi particulière que celle de l'enfant illégitime, nous pourrions avoir une très belle prière, mais elle resterait la sienne, purement et simplement. Le fait qu'elle ait été incorporée, et ça alors, c'est qu'elle a été en circulation, incorporée dans le psautier, signifie que le texte n'a pas été compris d'une évocation d'adultère. Je suis donc obligé d'écarter l'idée que le psalmiste ici, et je suppose David, est en train d'accuser sa mère. Ce n'est pas le péché de sa mère qu'il met en avant, mais c'est le fait que, dès le premier moment de son existence, il baigne dans le péché. Et je crois que la Bible de Jérusalem a traduit parfaitement quant au sens, en traduisant « Vois, mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu ». C'est le sens. Ce n'est pas une traduction tout à fait littérale, je vous ai donné la traduction littérale un peu avant, mais c'est bien là le sens. Donc, ça correspond à tout le mouvement de la confession. David, le psalmiste, est en train de s'accuser lui-même. Et disons, c'est un approfondissement de sa confession de péché. Il reconnaît précisément que ce n'est pas un simple acte accidentel que le péché qu'il a commis, mais que c'est si vous me passez l'expression, qu'il est corrompu jusqu'au profond, qu'il est dans toutes les fibres de son être, depuis son commencement même, depuis sa naissance, depuis sa conception, dans le péché. Alors là se pose la deuxième question, c'est plus facile à régler, je crois. Est-ce pour s'excuser ou est-ce pour s'accuser davantage que David, le psalmiste, dit cela? Certains comprennent qu'en s'avouant en quelque sorte mauvais jusqu'à la racine, David est en train d'invoquer un motif d'indulgence, disant, ben oui, je ne pouvais pas, alors ne pas. C'est comme ça que la Bible de Jérusalem, qui a bien traduit, explique dans sa note. Mais je crois personnellement que la majorité des commentateurs a bien raison en disant que, bien au contraire, dans le mouvement du psaume, ce n'est pas du tout un effort pour s'excuser, pour dire « Oh, j'étais si faible, de façon pécheur, alors... » Non, mais c'est pour, au contraire, avouer dans quelle mesure le péché l'atteint
et sa situation désespérée hors la grâce de Dieu, c'est pour dire cela et donc pour s'accuser davantage, ou en tout cas pour se présenter tel qu'il est dans sa misère, que le psalmiste dit ce qu'il dit. Mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. En moi, c'est-à-dire en ma chair, n'habite aucun bien, pour reprendre alors là l'expression de l'apôtre Paul. Donc ce texte me semble affirmer de manière qui est nette, quand on étudie, cette vérité que je vous propose. Nous naissons pécheurs. Dès notre naissance, dès le début de notre être. Et la parole avait été préparée déjà par Genèse 8, 21, où il est dit que la fabrication du cœur de l'homme est mauvaise. Dès sa jeunesse ou son enfance, traduit la ville de Jérusalem, à juste titre, il ne s'agit pas de donner un point de départ après la petite enfance, par exemple, mais de dire vraiment c'est depuis le début. À aucun moment il n'est vraiment récupérable. Dans le Nouveau Testament, eh bien, on pourrait trouver peut-être des données au chapitre 7 aux Romains. Dans l'Épître aux Romains, vous avez une grande richesse dans le développement de la doctrine du péché. Au chapitre 7 aux Romains, Paul présente le péché comme déjà en l'homme, mais en quelque sorte dormant ou quasi mort, ne s'exprimant pas encore avant que l'homme atteigne un seuil de responsabilité et alors comprenne le commandement qui lui est adressé, qu'il ne convoitera pas. À ce moment-là, dit-il, le péché reprit vie en moi et je me fit mourir, parce que le seul fait que ce commandement m'ait été adressé a fait ressortir que j'étais habité par le péché. Vous vous rappelez ce passage, verset 14 et suivant du chapitre 7 aux Romains. Bien, qu'implique-t-il, pour le point précis que nous considérons, il implique que dès avant le moment où consciemment j'ai transgressé un commandement, le péché était en moi, dès le départ. Je pense qu'on pourrait aussi, dans le développement de cette notion, bibliquement, parler du concept de chair, très important dans la Bible. La chair, en général, dans l'Ancien Testament, et dans beaucoup de passages du Nouveau Testament, c'est la nature humaine, dans sa fragilité, dans sa misère, dans son éloignement de Dieu. Pas strictement dans son péché. Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair, dans le sens nature humaine, dans sa fragilité, dans sa misère, mais non pas dans son péché. C'est un sens, ce n'est pas le seul sens du mot chair, mais c'est un sens qui est sans doute prédominant. Paul a été conduit, dans certains passages, à aller plus loin que cela et à faire de la chair la puissance porteuse du péché, ou à décrire, par à l'aide de ce terme, l'imprégnation de notre nature par le péché. Et c'est là que je dis qu'il a une notion qui correspond à celle de nature. En utilisant ce concept de chair, pour parler de l'anti-esprit, de ce qui s'oppose à l'esprit de Dieu en nous, il évoque ce fait que, dans toutes nos dispositions, notre chair, notre nature humaine, nous sommes imprégnés par le mal. Et ce concept de chair implique aussi, dans la pensée biblique, la solidarité de tous les hommes. Tu es mes os et ma chair, ça veut dire tu es mon parent. La chair a aussi cette référence dans la pensée biblique. Et rappelez-vous alors la parole de Jésus à Nicodème, qui se rapproche beaucoup de l'usage que fait Paul du mot chair pour parler de l'imprégnation du péché. Ce qui est né de la chair est chair et ne peut voir le royaume de Dieu, soulignant la solidarité dans un mal qui est en nous dès la naissance. Je crois que ces données sont suffisamment claires pour que nous devions affirmer une corruption de nature, comme le fait la confession de foi. Notre nature est tout entière plongée dans le mal. D'ailleurs, je vous fais remarquer au passage que l'universalité statistique du péché, tous les hommes pêchent, et dès qu'ils commencent à agir, à penser, ça se voit, ne s'explique pas autrement. Si ce n'était pas une nature corrompue que la nôtre, comment se ferait-il que, comme ça, un drôle de hasard, tous finalement nous empruntons ce même chemin. Je crois que ces vérités que je vous expose sont parfaitement ensemble, il n'y a pas de grand problème pour qui veut simplement lire le texte. Lorsque la confession de foi dit tout entière plongée dans le mal, il faut prévenir un malentendu. Elle ne veut pas dire que tous les hommes sont aussi mauvais qu'il est imaginable de l'être. Il y a des degrés, il y a des différences, et la Bible les reconnaît bien, entre des hommes relativement justes parmi les païens et d'autres qui ne le sont pas. Le tout entier est relatif à l'extension. Ça veut dire qu'il n'y a pas de petite plage qui soit entièrement préservée. Il n'y a pas de domaine dans notre nature, notre personnalité, qui puisse être mise hors jeu en quelque sorte. Nous sommes atteints totalement. Intelligence, volonté, affection, notre corps même devient l'instrument du péché, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'en intensité, alors nous avons atteint le degré maximum. La vie ne serait plus possible sur la terre à ce moment-là. Mais il y a un frein mis au développement du péché, et c'est ce qu'on appelle en théologie la grâce commune, qui est au service de la grâce salvatrice, la grâce commune qui empêche le péché de se développer et qui fait qu'il y a encore du bien, un bien relatif, un bien qui est souillé de bien des manières, qui ne saurait suffire pour le salut, mais un bien quand même qui nous permet de vivre ensemble et puis de jouir encore de la création de Dieu dans une certaine mesure. Cela, la Bible ne le nie pas du tout et la confession de foi ne le nie pas non plus en disant tout entier plongé dans le mal. Il s'agit de l'extension à tous les domaines pour qu'on ne s'imagine pas qu'il y a quand même là un point qui resterait intact et sur lequel on pourrait alors bâtir une propre justification, bâtir un salut que l'homme se fabriquerait lui-même. S'il restait un seul petit endroit que le péché n'est pas touché, alors on pourrait espérer, à partir de là, gagner soi-même la bataille. Alors c'est cela qui est exclu. Et alors là, vous savez, la Bible le souligne. Perdu, sans espoir, esclave du péché, si nous sommes blessés à nous-mêmes. Je souligne, si vous voulez appliquer à l'actualité, ce que nous venons de dire, que c'est cette vérité qui s'oppose à l'idée aujourd'hui répandue que le mal provient essentiellement de l'éducation ou de l'environnement. Le rousseauisme ambiant conduit automatiquement les gens, quand ils font une manifestation de mal, ils savent en reconnaître au moins certaines, à dire c'est parce que la société n'a pas su faire ceci, faire cela, à cause de l'environnement personnel, social, plus large, etc. Vous le savez, pas la peine que je détaille. Bien sûr, il ne s'agit pas de nier qu'il y ait des erreurs de pédagogie qui puissent produire de mauvais fruits. Il ne s'agit pas de nier que certains environnements favorisent la multiplication du péché. Mais bibliquement, il n'est pas douteux que ce n'est pas là l'origine. L'origine, elle est dans ce cœur de l'homme avec lequel il naît, ce cœur qui fabrique dès son enfance du mal à longueur de journée. C'est là qu'est l'origine, et toute réforme pédagogique, sociale, etc., qui s'imagine pouvoir résoudre le problème en supposant, en présupposant la bonté fondamentale du cœur de l'homme, elle est vouée à aboutir à des situations pires. C'est un peu la situation de la parabole, on transpose l'application, de la maison dont on expulse un premier démon, et dans laquelle il revient avec cet autre plus méchant que lui, parce qu'il la trouve alors bien balayée, bien ornée pour y faire sa demeure. Ainsi pour le premier point. Je n'essaie pas de masquer mes transitions. Tant pis pour les dégances, comme ça vous prenez des notes plus facilement. Deuxième point. Le mal est culpabilité condamnable. Les deux rédactions, l'ancienne et la nouvelle de la confession de foi, soulignent également que l'état de péché qui adhère à notre être dès son commencement est coupable et qu'il est condamné. Je vous rappelle que la confession de foi actuelle dit son pécheur est coupable devant Dieu, il tombe sous le coup de sa colère et de sa condamnation, et que l'ancienne disait elle est ainsi sous le coup de la condamnation de Dieu. Là, c'est plutôt un point exprimé avec plus force dans la nouvelle rédaction, qui ajoute le terme de colère. À propos de ce terme de colère, simplement faire une petite remarque, il est biblique. Il ne doit pas, bien sûr, être mécompris. Et il ne faudrait pas que nous appliquions à Dieu telle quelle notre image de la colère humaine, la colère de l'homme qui n'accomplit pas la justice de Dieu, nous dit précisément l'Écriture. Ce n'est pas un emportement viscéral et incontrôlé comme nos colères, que la colère dont il est question dans l'Écriture à propos de Dieu et de sa réaction au péché. Je vous rappelle ce que j'ai dit vendredi soir, le coefficient de transformation qu'il faut appliquer à nos notions et nos images quand on les applique à Dieu, selon une discipline de l'ensemble de la révélation scripturaire. En un sens, on pourrait dire qu'il n'y a pas plus dans colère que dans condamnation. Il s'agit de l'indignation, de la réaction de la justice de Dieu à l'égard du péché, de cette horreur à ses yeux. Je pense quand même qu'il faut garder le mot colère, parce qu'il souligne qu'il ne s'agit pas d'une simple affaire de code transgressé avec une sanction automatique, pas de quelque chose d'impersonnel. Le péché est une atteinte personnelle à Dieu, et Dieu réagit personnellement. Et c'est ce que le mot colère est là pour nous apprendre. Ce n'est pas simplement une justice de balance et de glaive, c'est l'amour dévorant, jaloux du Dieu saint qui nous veut à lui et qui a en horreur le mal qui est en cause. Et il est touché lui personnellement. C'est ce que ce terme de colère évoque, je crois. Que nous soyons sous la colère, sous la condamnation, coupables, est affirmé, eh bien, par exemple, par ce texte de l'Épître aux Éphésiens que je mentionnais tout à l'heure. Nous sommes enfants de colère. C'est un hébraïsme, que cette expression. Et les Hébreux emploient beaucoup enfants d'eux pour désigner le porteur d'une qualité. Par exemple, pour dire j'ai 30 ans, oui, je suis fils de 30 ans, enfant de 30 ans. Et c'est assez couramment une expression employée. Alors vous avez le fils de perdition, c'est le perdu. Le perdu type. Ici, enfant de colère ne signifie pas des gens coléreux, pas du tout. Ça veut dire des coupables. Des hommes qui sont sous la colère de Dieu, des êtres qui sont sous la colère, juste colère de Dieu, sous sa condamnation. Le terme est, je crois, tout à fait clair, et la parole est nette. Nous sommes par nature, donc, enfants de colère, sujet à la condamnation de Dieu. Je souligne aussi que c'est toute la doctrine biblique du péché qu'on pourrait invoquer. Si nous sommes pécheurs dès la naissance, nous sommes coupables. Certains ont essayé de ruser en disant nous sommes corrompus mais nous ne sommes pas coupables. Nous sommes souillés mais nous ne sommes pas coupables. Mais où voyez-vous une telle distinction dans l'Écriture? Vraiment, ça n'arrive pas. Je crois qu'il est tout à fait incompatible avec l'Écriture de faire de telles différences comme si un être corrompu pouvait se tenir devant Dieu en disant je ne suis pas coupable, je ne suis pas sous le jugement. Ça va ensemble dans toute la Bible. Je ne vais pas essayer de le prouver parce que c'est dans toute la Bible. Si jamais vous en doutez, eh bien lisez, lisez. Je crois que ça ne peut pas se manquer. Si on cherche un texte alors plus précis, il y a le texte assez difficile de Romains 5 que nous avons lu tout à l'heure. Dans ces versets 13 et 14, l'apôtre Paul, si je le comprends bien, souligne que le péché a été imputé, même en l'absence de la loi de Moïse, d'une loi, pour les hommes qui ont vécu entre Adam et Moïse, et ils se fondent pour l'affirmer sur le fait qu'ils sont morts, que la mort a régné. La mort est le salaire du péché, c'est la condamnation, la sanction qui correspond à la condamnation du péché. La mort a régné pendant toute cette période, et pourtant, alors ça suppose que le péché était imputé. Ça suppose que le péché était sanctionné. Ce n'était pas un simple état de fait de corruption que Dieu n'aurait pas enregistré et qui n'aurait pas concerné sa justice. Non. Puisque la mort a régné, c'est que les sanctions sont tombées. Alors il demande, mais comment ça se fait? Vous voyez sa logique là. Comment ça se fait? Il n'y avait pas de loi. Or, il faut une loi pour que le péché soit imputé. La réponse, et dans tout son développement qu'on le trouve, c'est la cause d'Adam. Il n'y avait pas de loi, mais à cause d'Adam, et c'est pour ça qu'il peut dire, à cause de la faute d'un seul, la multitude a été constituée pécheresse, et que tout son développement souligne le rôle de ce seul homme, de l'unique Adam, pour toute sa descendance, pour toute cette multitude. Alors, je n'entre pas dans le détail de l'interprétation de ce texte, mais vous voyez la logique de Paul. Du moment que ces hommes sont morts, leur péché a dû être imputé. Et puis d'autre part, il n'y avait pas de loi pour leur imputer. Alors, il faut chercher. C'était la relation à Adam qui permettait cette imputation. Mais de toute façon, ils considèrent que le fait de la mort prouve que le péché est imputé. Une autre preuve biblique que nous sommes tous considérés comme coupables dans ce péché. Et c'est ici, je crois, alors, ce qui heurte le plus notre sentiment naturel, et spécialement moderne. Car nous nous disons, mais si nous naissons dans cet état, avec tous les fruits qui procèdent de cet état, comment en sommes-nous responsables? Voilà ce que nous nous disons, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous réalisez aussi. Jérémie, au chapitre 13, au verset 23, compare l'imprégnation de notre nature par le péché aux taches du léopard. Comment pourriez-vous vous changer? Le léopard peut-il éliminer ses taches? Ou quelqu'un changer de peau? L'Éthiopien changer de peau, changer de couleur? Mais alors, nous disons, mais peut-on accuser le léopard d'avoir ses taches et lui faire reproche de son pelage? Il n'est pas responsable. Alors, comment sommes-nous coupables sous une condamnation pour un état dans lequel nous naissons? Donc, il n'y a pas de doute que c'est là notre objection. Je pense qu'il faut dire deux choses d'abord en réponse. L'enseignement de la Bible est clair, et il s'agit de reconsidérer nos notions et nos sentiments et tout ce qui nous fait réagir comme nous réagissons naturellement. Je crois qu'il y a en premier lieu une vision étriquée de la responsabilité. Nous avons cette idée, je crois, très couramment, que l'on est responsable lorsqu'on a devant soi la possibilité concrète de faire ci ou de faire ça. Et s'il y a asservissement, s'il y a incapacité, alors il n'y a pas de responsabilité. C'est quoi la notion biblique? Chercher comment la responsabilité nous est présenté dans l'Écriture, et en particulier dans les premiers chapitres aux Romains, sur quoi se fonde notre responsabilité, ce n'est pas sur cette capacité concrète de faire le bien que Dieu réclame, car la Bible nous dit tout entière que nous ne pouvons pas le faire. Et pas plus après à 20 ans qu'en naissant. Nous sommes incapables par nous-mêmes de faire ce bien. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alors si on acceptait cette logique qui veut que lorsqu'on est esclave, on est plus coupable, alors il n'y aurait pas de coupable. Vous voyez que la Bible ne raisonne pas du tout comme selon cette logique. La responsabilité se fonde autrement. Sur quoi se fonde-t-elle? Ça, c'est plus délicat à analyser. Je crois qu'elle se fonde sur le caractère volontaire de l'incapacité. Il est bien vrai que si la contrainte vient de l'extérieur, si trois solides gaillards nous tiennent le poignet, nous obligent à tenir un couteau et l'enfoncent dans le cœur de la pauvre victime, il est clair que nous ne sommes pas responsables et coupables. Je crois que c'est clair bibliquement aussi. Lorsque la contrainte est extérieure, d'accord. Seulement la contrainte asservissante qui fait que nous ne sommes pas capables de ne pas pécher, avec notre nature corrompue, c'est une contrainte intérieure. C'est notre volonté. Nous ne voulons pas. L'asservissement, il est dans notre volonté. C'est un asservissement d'un type unique. Pourquoi les analogies sont dangereuses, là? Absolument singulier. Et c'est cela qui fait que la responsabilité demeure, subsiste. Parce que nous n'avons pas le droit de dire à Dieu, ben, je voudrais bien, je peux pas. Si tu veux. Mais non, c'est justement que nous ne voulons pas. Bon, il y a peut-être des velléités, mais un vouloir, et non, c'est ça qui manque. Et c'est là que se situe la responsabilité bibliquement. Donc je crois qu'il nous faut élargir notre vision de la responsabilité, la corriger selon l'Écriture. Puis alors au-delà,
Une deuxième réponse. Je suis sûr que si nous raisonnons comme ça, c'est que nous avons perdu la terreur de Dieu, le sens de son droit, de ses exigences, l'horreur de la souillure devant lui. Je suis sûr que si nous raisonnons comme ça, c'est que nous ne sommes plus devant lui, nous ne saisissons plus que nous sommes devant lui. Mais lorsque nous nous voyons vraiment dans notre souillure et notre incapacité à faire le bien devant lui, alors nous savons bien que nous sommes coupables par là. Et nous nous accusons. Oui, nous savons que cela est culpabilité. Mais seulement, et je crois que c'est la grande tentation des temps modernes, cette terreur de Dieu qui vient avant, disons, la crainte de l'Éternel qui subsiste dans le croyant pardonné, cette terreur de Dieu qui doit être à un moment, cette terreur de Dieu est comme effacée, n'est-ce pas ? On en rigole, mon Dieu, etc. C'est tout. Mais c'est ça, pourtant, qu'il nous faut pour être dans l'axe biblique. Autrefois, les hommes, même avec des visions distordues de Dieu, gardaient encore une certaine terreur de Dieu. Et ajoutez ceci. Aujourd'hui, on voudrait nous en débarrasser complètement. On n'y arrivera pas. Jamais complètement. Et c'est pourquoi, rappelons-nous les moments où nous nous sommes vraiment reconnu misérable par le mal qui est en nous. Nous savons bien que dans ces moments-là, nous n'avons pas pu nous dire oh, alors que je ne suis pas coupable, puisque je ne peux pas. Au contraire, c'était cela même qui nous déchirait, le sentiment d'une culpabilité dans cette misère. Et cela est sain et cela est conforme à l'Écriture. Ces points bien établis, c'est pas bien établi, je voudrais souligner que la culpabilité ici en cause ne doit pas être confondue avec la fausse culpabilité du sadisme du surmoi ou de l'autocensure préalable en quelque sorte que certains ont évoqué pour expliquer le péché originel, ce que les chrétiens ont appelé péché originel. Les psychanalystes, vous le savez, démontrent dans certains cas une sorte de cruauté de l'instance du surmoi, de la conscience qui juge, une cruauté qui abaisse l'homme. Et voilà, c'est pour ça que les hommes se sont accusés d'être mauvais, coupables dès la naissance alors qu'ils n'avaient rien fait, etc. D'autres ont dit c'est plus subtil encore. En fait, chaque homme a devant lui le problème de se tenir en bride. Le moi doit maîtriser ce qui monte de sa biologie. Et alors, pour se faciliter le travail, en quelque sorte, il se décrète d'avance coupable. Comme ça, il se donne un peu d'avance sur la maîtrise de ses impulsions. Alors, je crois qu'il existe effectivement une fausse culpabilité qui a ce type d'origine. Je crois. Mais ce que je veux souligner, c'est que la culpabilité dont parle l'Écriture est autre et que nous ne devons pas céder là à la séduction de ces explications, je dirais, ce n'est que ça. Et finalement, alors, on peut donc s'en débarrasser en comprenant l'affaire. Il reste beaucoup de travail, à mon avis, pour démêler la vraie culpabilité de la fausse. Et il faudrait des gens à la fois capables, compétents en psychanalyse et en théologie, et aussi biblique. Je crois qu'il reste beaucoup de travail, et je ne prétends pas tout commencer de le faire. Mais ce que je souligne, c'est que la reconnaissance de la culpabilité, que dans notre misère et notre incapacité, nous devons nous reconnaître, est liée à la radicalité biblique dans sa vision de Dieu et de l'homme devant Dieu. C'est en prenant ainsi conscience des attaches, au fond, de cette doctrine du mal de nature, que nous pouvons échapper à la séduction de l'interprétation réductrice des psychanalystes. Ce qui est en cause, c'est finalement le Dieu de la Bible. Mais si vraiment le Dieu de la Bible est tel qu'il est, un Seigneur saint, d'un amour totalement exigeant, si nous sommes à son image, pas des simples organismes biologiques complexes, mais à son image, des libertés qui sommes par notre relation à lui, alors, pas possible de nier finalement que si nous ne sommes pas dans la droite relation avec lui, lui donnant cette adhésion de tout notre être qu'il exige, et qu'il est absolument droit d'exiger, un tel Dieu a le droit d'exiger, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. Si nous ne sommes pas là, eh bien, nous sommes radicalement mauvais à ce moment-là, parce que c'est le mal même de ne pas satisfaire ce Dieu-là. Et nous sommes coupables, parce que c'est en tant qu'être en image de Dieu que nous sommes dans une telle situation. Si nous avons la vision biblique de Dieu et de l'homme, nous aboutissons à cette doctrine du péché, même s'il n'y avait pas de texte pour nous le dire. Heureusement qu'il y a des textes pour nous le dire, mais nous y aboutirions. Et ce n'est pas une affaire simplement d'introspection qui pourrait être maladive, etc. C'est lié à notre à la vision même du Dieu biblique. Troisième partie, le mal a commencé dans l'histoire. Ce mal a commencé dans l'histoire. Les deux réponses que je viens de donner à l'objection qui monte naturellement de notre cœur nous obligent à la faire taire. Mais je crois que les chardes continuent de nous faire mal. Les chardes de cette objection. Car nous disons, bon, d'accord, nous ne pouvons pas refuser la confession d'Éphésiens 2:3. Nous ne pouvons pas refuser de dire que par nature nous sommes justement soumis à la colère divine. Mais enfin, comment comprendre que la nature, puisque nous avons été créés par le Dieu Saint, que la nature soit mauvaise? Reste cette écharpe-là. Et je crois que c'est le troisième point qui nous permet de donner une réponse. Si l'infection naturelle est culpabilité, c'est qu'il faut mettre naturel entre guillemets. C'est qu'il s'agit d'une nature contre nature. C'est que cette infection de mal est une étrangeté par rapport à notre nature originelle, par rapport à notre création.